RRB, première radio d'information. RRB, une radio d'opinion.
Radio Rythme Bleu, il est 17h45. Info soir, c'est avec vous, Léana Colombo.
Une journée placée sous le signe des discussions pour Manuel Valls. Le ministre des Outre-mer a organisé cet après-midi une plénière de méthode avec les différents groupes politiques calédoniens. Manuel Valls a également rencontré aujourd'hui les représentants des institutions calédoniennes. Les sujets de la reconstruction et de l'avenir institutionnel ont largement été évoqués. Une délégation calédonienne est présente au Salon de l'agriculture à Paris. L'occasion pour ses membres d'évoquer l'impact des émeutes 2024 sur la production locale et les solutions pour y faire face. L'actualité dans le Pacifique, les recherches se poursuivent pour retrouver un homme qui aurait été attaqué par un grand requin blanc hier après-midi. Du sport, une semaine de haut vol pour le squash en Calédonie. L'Open international des 40 ans de la salle Picou débute ce soir. 70 participants sont attendus. Bonsoir à tous, bienvenue dans Info Soir pour tout savoir de l'actualité en Nouvelle-Calédonie et dans la région Pacifique. Un journal largement consacré à la visite du ministre des Outre-mer sur le territoire. Emmanuel Valls est rentré dans le vif du sujet cet après-midi en rassemblant dans l'hémicycle du Congrès l'ensemble des délégations qu'il avait reçues en bilatéral à Paris. Il leur a proposé des thèmes et un calendrier de discussion, un dispositif qui ne fait pas forcément l'unanimité, Elisabeth.
Il faut encore attendre un peu pour connaître la réaction et le positionnement de tous les groupes politiques, mais c'est sans doute un premier succès pour le ministre des Outre-mer. Toutes les délégations avaient répondu à son invitation pour participer à ce qu'il a été appelé une plénière de méthode. Les délégations loyalistes, Rassemblement, Calédonie Ensemble, Unis et UCFLNKS, ainsi que l'Éveil océanien, étaient présentes dans l'hémicycle du boulevard Vauban, où le ministre a fait le bilan des discussions bilatérales avant de proposer trois thèmes de négociation. Ces trois thèmes, ce sont les suivants. Plus de souveraineté pour la Nouvelle-Calédonie, comment faire peuple, c'est-à-dire la question de la citoyenneté, et enfin la question de l'autodétermination. C'est Jean-Pierre Diaoué de l'UNI qui a le premier rendu compte de cette plénière.
C'est une plénière de méthode. Le ministre nous a restitué la synthèse des discussions que nous avons eues à Paris. Il y a trois grands sujets qui reviennent. C'est plus de souveraineté à la Nouvelle-Calédonie, la question du vivre ensemble, et la question de l'autodétermination. Voilà des sujets qu'il faudra développer dans les jours qui vont venir, mercredi, jeudi et vendredi. C'était rapide, il nous a restitué, les uns et les autres ont pu dire ce qu'ils en pensent, mais là ils vont approfondir les questions dans des réunions bilatérales avec le ministre.
Et l'UNI est satisfaite pour l'instant, elle est d'accord sur la méthode proposée par Manuel Valls.
Nous avons dit pour ce qui nous concerne qu'on était partant, on est bien conscient de la situation que connaît la France, la situation politique, il y a beaucoup d'instabilité. On est conscient de la situation que connaît la Nouvelle-Calédonie aujourd'hui avec ses difficultés sur le plan économique, social, les difficultés de nos familles, que le temps qui est devant nous, il est précieux. Donc il faut mettre à profit ce temps pour que l'on arrive à un accord. Voilà ce qu'on a dit au ministre. Et nous sommes prêts à aller dans les négociations, là, dans les jours qui viennent.
Quant au calendrier, les négociations se dérouleraient avec tous les partenaires politiques mercredi et jeudi, et le ministre espère même, selon Jean-Pierre Diaoué, un début de compromis politique dès vendredi. Satisfaction également de Calédonie Ensemble, Philippe Dunoyer exprime sa satisfaction, mais il relève surtout la présence de tous les partenaires.
Regardez, c'est que tout le monde était là. Et c'est non seulement vrai aujourd'hui, mais de ce qu'on a compris, ce sera vrai pendant les 4 demi-journées de travaux qui ont été annoncés par le ministre. Mercredi toute la journée et jeudi toute la journée. Donc ça, c'est quand même aussi une nouvelle importante. Importante pour les Calédoniens, importante pour le pays, dans la perspective de trouver cet accord. Sur la méthode, le ministre nous a proposé de découper les différents sujets en plusieurs thématiques. Et c'est chacune de ces thématiques qu'on abordera trois fois avant d'en faire une première synthèse jeudi après-midi. Donc moi, je considère que c'est une bonne méthode. D'abord parce qu'elle réunit tout le monde, ensuite parce qu'elle est construite. On a des sujets précis, ils sont très nombreux, hein, et ils vont nous permettre, pour la première fois depuis très longtemps, de les aborder les uns avec les autres. J'espère, mais je ne suis pas certain qu'en fin de semaine, bien sûr, l'accord sera dégagé, mais en tout état de cause, on aura, je pense, vraiment bien avancé cette semaine, si bien entendu tout le monde est là. Et je ne doute pas que ça soit le cas. Il nous restera à poursuivre certainement ces travaux. Le ministre a dit qu'il était prêt éventuellement à rester un peu plus longtemps, mais surtout nous a engagé à continuer de travailler à Nouméa.
Philippe Dunoyer qui parle d'un signal concret du lancement officiel de ce que l'on appelle les discussions tripartites et qui relève l'état d'esprit constructif de la part de tout le monde. Satisfaite aussi la délégation UCFLNKS conduite par Emmanuel Tchibaou. Il faut savoir qu'après cette réunion plénière, le ministre a reçu en bilatéral chacune des délégations et c'est à l'issue de cette bilatérale que s'est exprimé le président de l'UC. Il précise qu'il faut encore consulter les instances du FLNKS pour savoir si sa délégation participera ou non aux négociations dès mercredi.
C'est une bonne méthode. D'abord, l'objectif, c'est qu'on fait le relais auprès des structures du FLNKS. Puis c'est au terme des relais que l'on fait au sein des différentes structures qu'on va ou non à la discussion de mercredi. Mais bon, là, on a apprécié la méthode et puis surtout le cadre plus serein des débats qui est porté ici. Ça change des méthodes précédentes qu'on expérimente depuis Castex, Borne, Attal, Barnier, puis maintenant Béraud.
Voilà, satisfaction pour la méthode, mais on ne sait pas encore si les instances du FLNKS décideront que sa délégation peut participer dès mercredi à ces négociations. L'UC qui devrait communiquer dès demain sur sa décision. Restent les délégations loyalistes et rassemblements qui n'ont pas fait de déclaration ni après la réunion plénière, ni après la bilatérale qui vient de se terminer, qu'elles avaient avec le ministre des Outre-mer. Les trois thèmes les laissent plutôt perplexes. Je vous rappelle ces thèmes qu'a proposé Manuel Valls. Plus de souveraineté pour la Nouvelle-Calédonie, comment faire peuple ? Et enfin, la question de l'autodétermination. Les loyalistes et le rassemblement sont plutôt circonspects sur les thèmes qui ont été choisis. Et les visages étaient plutôt fermés à l'issue de ces réunions. Pas de déclaration pour l'instant. Nous verrons d'ici la fin de la journée si les délégations loyalistes et rassemblement s'expriment et ce qu'elles pensent de cette méthode et de ce calendrier qui a été proposé aujourd'hui par le ministre des Outre-mer.
C'est dans les studios de Radio Rythme Bleu que le ministre des Outre-mer avait débuté sa troisième journée en Nouvelle-Calédonie. Une interview d'une trentaine de minutes dans laquelle Manuel Valls a voulu rassurer et il a affirmé à plusieurs reprises qu'il n'est pas possible qu'il n'y ait pas d'accord, Jean-François Baudin.
Oui, Manuel Valls a voulu rassurer sur la place de la France. Le lien avec la France est là, il est incontournable, on ne peut pas le rompre. La France, dit-il, est le partenaire logique, historique, naturel de la Nouvelle-Calédonie. Et au début de cette semaine, qu'il qualifie de cruciale, il déclare qu'il tend la main à tous et que chacun doit être à la hauteur du moment. C'est le moment où chacun doit faire un pas vers l'autre, dit-il, en affirmant que l'État ne sera pas spectateur. Nous voulons être très engagés et nous serons proactifs, déclare le ministre, qui affirme aussi qu'il sera intraitable sur les questions de sécurité. Pour éclairer l'avenir de la Calédonie, il faut le redressement économique et la solution politique, ajoute Manuel Valls. Mais la France, elle, est là et elle restera. Et il a précisé le rôle qu'il voulait tenir.
Mon rôle, c'est de rappeler un certain nombre de principes, c'est les bases, la démocratie aussi, et c'est de construire cet avenir commun. Il n'y a pas d'autre solution, parce que de toute façon, si un camp veut gagner sur l'autre, s'il veut l'imposer d'une manière ou d'une autre, les mêmes problèmes, les mêmes erreurs se reproduiront et on ira à l'affrontement. Donc il faut l'éviter, et c'est l'intérêt, bien sûr, de la France, mais c'est d'abord et avant tout l'intérêt de ce territoire, de ce pays, et des habitants, des citoyens, qui sont très divers. Il y a aussi un mélange de cultures, même s'il y a des formes de face-à-face. Et si on trouvait ce chemin, c'est pour cela que je passerai du temps, et que je continuerai à tout faire pour convaincre. Je crois qu'il n'y a pas d'autre solution. Parce que s'il y a un échec, s'il n'y a pas d'accord, où va-t-on ? On va dans le mur. Et ça n'est pas possible. Ça n'est pas possible qu'il n'y ait pas d'accord.
Une interview du ministre des Outre-mer sur Radio Rythme Bleu qui est à retrouver en audio et vidéo sur notre site internet.
Et après cette interview dans nos studios, Manuel Valls a été à la rencontre du monde éducatif. Il s'est rendu ce matin dans l'école primaire Michel Amiot à Magenta, l'occasion d'évoquer les difficultés auxquelles fait face le secteur et l'importance de l'éducation dans la reconstruction du territoire. Le ministre des Outre-mer qui a ensuite enchaîné les entretiens avec les responsables des institutions, Jean-François.
Il a d'abord eu un tête-à-tête d'une quinzaine deux minutes avec le président du gouvernement, Alcide Ponga, avant de s'entretenir avec l'ensemble des membres du gouvernement pendant un peu moins d'une heure. L'occasion de faire le point sur les différents sujets à traiter avec l'État, qu'ils soient sociaux mais surtout économiques, explique le président du gouvernement, Alcide Ponga.
Dans les éléments que nous avons échangés avec M. Valls, un remerciement à l'État pour tout le soutien que l'État déploie en Nouvelle-Calédonie depuis maintenant plusieurs années, même avant ce qui s'est passé en 2024. Et également dire à l'État que nous comptons sur l'État pour l'accompagnement financier. Mais ce qu'il faut que les Calédoniens comprennent, c'est que l'État va continuer à nous aider. Il y a aussi un travail que nous devons faire ici en Nouvelle-Calédonie. Donc l'État nous a rappelé. L'état des finances de la France était celui que nous connaissons tous. C'est compliqué, c'est difficile. Donc oui, aider la Nouvelle-Calédonie, mais le gouvernement central attend aussi à ce que la Nouvelle-Calédonie fasse des efforts de son côté.
Parmi les sujets abordés, la prolongation du chômage partiel spécial émeute jusqu'au 30 juin. juin, une bonne nouvelle pour le membre du gouvernement Christopher Gigès.
Le ministre a annoncé la prolongation du chômage partiel. C'est une excellente nouvelle pour les Calédoniens. Ça va nous permettre de donner de la visibilité, notamment sur la partie chômage total. Mais ça permet de maintenir surtout les emplois dans les sociétés. Et c'était le principal. Il est financé avec les fonds de l'État, donc dans la question des 120 milliards. Mais jusqu'à présent, nous n'avions pas de fongibilité sur ces textes. Donc le ministre l'a annoncé. C'est une bonne nouvelle. Ça nous permet vraiment d'avoir un maintien des emplois dans les sociétés. Et c'est quelque chose d'important pour une reprise d'activité.
Et les dispositifs de mise en place seront évoqués ce soir lors de la réunion avec les acteurs économiques. La prolongation du chômage partiel, il en a aussi été question avec la présidente du Congrès, Velma Falaeo. Au menu de cet entretien, les questions politiques et économiques.
Très à l'écoute, un ministre qui souhaite que l'on puisse s'en sortir sur le volet plus politique et de l'avenir institutionnel. Conscient en fait des défis qui se présentent à la Nouvelle-Calédonie, je pense que les prochains jours seront déterminants, mais en tout cas, j'ai senti quelqu'un de très à l'écoute et qui souhaitait aider et accompagner la Nouvelle-Calédonie pour s'en sortir. Le plus important, c'était aussi de rappeler le contexte économique et social de la Nouvelle-Calédonie. Nous avons 120 milliards de prêts garantis par l'État, mais dont un tiers va aller pour le remboursement des avances remboursables dont on a bénéficié depuis l'année dernière. Ce qui était important, c'était d'alerter le ministre d'État sur les conditions dans lesquelles les collectivités de la Nouvelle-Calédonie vont poursuivre le travail.
Évoqué aussi par la présidente du Congrès, le cas particulier des associations. Le ministre des Outre-mer s'est ensuite rendu à la province sud, où la présidente Sonia Backès l'a sensibilisé à la situation financière de la collectivité qui est confrontée à des choix budgétaires.
On a évoqué évidemment la situation de la province qui regroupe 75% de la population et qui malheureusement a été victime de la quasi-totalité des dégâts des émeutes, donc la situation évidemment financière. La situation sociale également, parce que beaucoup de choses sont dites sur les mesures sociales qui sont prises par la province. Or, malheureusement, des coupes budgétaires ont été faites dans tous les domaines, dans les aides aux entreprises, dans les aides aux agriculteurs, dans les aides sociales, parce que 80% du budget de la province en dehors de l'enseignement, c'est du social et que donc on est obligé de toucher à tout. Donc on espère que l'État nous aidera pour pouvoir reconstruire dans de bonnes conditions, parce que la province, c'est quand même aussi 9 milliards d'investissements. Et donc, on espère que ces investissements pourront se faire le plus tôt possible.
Et la présidente de la province sud a aussi échangé avec Manuel Valls sur la situation à Saint-Louis et sur le désenclavement du sud du Mont-d'Or.
Nous avons répété que l'État doit offrir une solution aux personnes qui sont prises en otage de l'autre côté de Saint-Louis. Le ministre nous a rassurés sur les procédures qui sont en cours en matière de justice pour arrêter tous ceux qui continuent de caillasser, qui ont participé aux émeutes, qui continuent d'effectuer des actions violentes. Mais au-delà de ça, on a également parlé de la nécessité de construction d'une seconde route si on veut maintenir ce développement sur cette zone-là. Et donc, il a été acté qu'effectivement, l'État contribuerait à la mise en place des études qui manquent, avec le CEREMA notamment, pour finaliser le travail amont avant le calage budgétaire nécessaire.
Emmanuel Valls a également confirmé à la présidente de la province sud qu'une partie de l'enveloppe destinée à la reconstruction des établissements publics serait allouée à la province sud. La priorité sera de lancer les travaux dans les 5 collèges touchés pendant les émeutes, mais aussi de rénover les routes les plus touchées. Dernière étape de la matinée pour Manuel Valls, la mairie de Nouméa. Et là en Corse, le maire Sonia Lagarde l'a entretenu de questions financières et budgétaires.
On a des budgets à voter parce qu'on est sur des budgets uniques avant le 31 mars. Aujourd'hui, nous n'avons aucune perspective des recettes pour les communes. En fait, on navigue un petit peu à vue. Moi, je vais voter un budget en fin du mois de mars avec une trésorerie négative. Normalement, je n'ai pas le droit. Puis surtout, elle a appelé une autre question sur le FIP en particulier, où on a une diminution drastique. Est-ce que l'État, sur le FIP en particulier, va absorber le delta qu'on connaît aujourd'hui, où on est à 81 milliards et qui ne laisse que 300 millions par mois à la commune, où il y a une perte de plus de 100 millions par mois. Donc, les sujets qui ont tourné autour des finances des communes et puis un aspect plus politique où je lui ai fait part d'une ambition que j'ai, qui est celle qu'on retrouve la sagesse. Voilà les sujets qui me tenaient à cœur.
Et après ces entretiens, Manuel Valls s'est ensuite rendu au Congrès de la Nouvelle-Calédonie pour une plénière de méthode dont nous parlions au début de ce journal.
En fin de journée, Manuel Valls rencontrera les acteurs du monde économique et le ministre des Outre-mer devrait faire des annonces. Dans un communiqué, NCECO souhaite alerter le ministre sur l'urgence de déployer rapidement des mesures concrètes pour sauver les entreprises. Ces mesures doivent concerner les assurances, la défiscalisation, le soutien bancaire ou encore la construction publique. La rencontre avec les acteurs économiques doit débuter tout à l'heure à 19h30 au Haut Commissariat. Et notez que nous reviendrons sur cette séquence économique demain matin à 7h30. Notre invité sera en effet Xavier Benoît, le président de la FINC. Demain, Manuel Valls passera une grande partie de la journée en province nord. Il doit d'abord visiter le lycée Michel Rocard de Pointe-Bout avant de se rendre sur la mine de Copéto. Le ministre des Outre-mer visitera ensuite le RSMA de Coumac. Il terminera son séjour en province nord par un hommage à Tiendanit sur la tombe de Jean-Marie Tjibaou. De retour à Nouméa, il se rendra au cimetière du 4e kilomètre pour un hommage à Jacques Lafleur. Et le ministre des Outre-mer terminera ce 4e jour de visite par un dîner au GIEP avec des jeunes Calédoniens.
Radio Rythme Bleu, opinion.
Et c'est l'heure d'opinion, votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu. Notre question du jour, selon vous, les partisans de la France ont-ils eu raison d'interpeller, comme ils l'ont fait, le ministre des Outre-mer au premier jour de sa visite en Nouvelle-Calédonie? Si vous pensez qu'ils ont eu raison, vous tapez 1. Si vous pensez qu'ils ont eu tort, vous tapez 2 et vous envoyez votre réponse au 3146. En bref, nuit mouvementée pour les forces de l'ordre sur Dumbéa. Ils ont dû intervenir à plusieurs reprises pour des feux de poubelles et de détritus. Certains ont eu lieu dans le quartier d'Auteuil, d'autres rue Pécrel en face du Médipol. À chacune de leurs interventions, les gendarmes ont été la cible de jets de pierre. Et une affaire résolue à Coumac, 3 mineurs sont convoqués par le tribunal des enfants le 26 mars pour une série de délits commis le week-end du 14 et du 15 février. Ils sont suspectés d'avoir allumé plusieurs feux, dont un qui a endommagé la toiture de l'école primaire, un autre à proximité du collège. Âgés de 16 à 17 ans, ils auraient également volé puis incendié le véhicule d'un particulier. Et enfin, lors d'un cambriolage, ils auraient menacé un septuagénaire avec des armes blanches. Un rendez-vous maintenant sur l'antenne de Radio Rythme Bleu. Une semaine après la rentrée scolaire, nous parlerons d'une problématique importante dans notre magazine citoyen, celle du harcèlement à l'école. Qu'est-ce que le harcèlement? Que mettons en place en Calédonie pour lutter contre ce harcèlement? Comment impliquer les enfants autour de cette problématique? Autant de questions que nous poserons demain à la mi-journée à nos invités. Nous serons en effet avec en compagnie du vice-recteur Didier Vindatiche, avec Gérald Giacomino, conseiller et sécurité auprès du vice-recteur. Nous serons également avec Marion Bénard, infirmière au collège Louise Michel de Païta, et avec deux jeunes ambassadeurs de cet établissement scolaire, Sakura et Thibault. Citoyens, une émission à suivre demain, juste après notre édition de la mi-journée. En attendant, il est 18h02, l'heure de marquer une pause dans ce journal avant de voir le reste de l'actualité. A tout de suite.
Ah, ces assurances! J'y comprends pas grand-chose.
C'est pourtant simple. Fais comme moi.
Va chez AXA, agence Ixon à Magenta, à côté de Mazda. Pour la voiture, le voyage, la maison, la retraite, le placement et la protection de toute la famille, leurs conseils sont simples, clairs et efficaces.
AXA, agence Ixon, votre assureur de proximité.
Numéro de RIAS, 170 059.
Savez-vous que quand plusieurs appareils sont branchés au même endroit, il est préférable de les brancher sur une multiprise équipée d'un interrupteur? On peut ainsi couper l'alimentation de tous les appareils d'un seul geste.
Retrouvez toutes les astuces EcoConso sur le site EEC. Sur RRB, il n'y a pas de jour sans EEC.
Construisons notre pays, économisons l'énergie.
RRB, pour être les premiers et les mieux informés.
La suite d'InfoSoir, Léana Colombo.
Une carte postale du Salon de l'agriculture qui s'est ouvert samedi à Paris. Les représentants de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et de Wallis et Futuna sont réunis cette année dans le village du Pacifique. La délégation calédonienne ne compte que 4 membres et ils sont souvent interrogés sur les conséquences du 13 mai et notamment sur la baisse de la consommation qui impacte de nombreuses filières. Cette situation oblige les producteurs calédoniens à trouver des solutions plutôt originales. C'est le cas de la SOPAC qui abandonne parfois les crevettes pour se lancer dans la congélation de squash. Jean-Philippe Bagot, le président de la commission végétale à la Chambre d'agriculture et de la pêche de Nouvelle-Calédonie.
Si on prend par exemple au niveau filière maraîchage, il y a des opportunités qui se mettent en route. Là, par exemple, on va avoir l'exemple de SOPAC. Afin d'optimiser en fait leur outil de production, il y a des périodes où ils ne vont pas avoir de production de crevettes, donc ils n'ont pas d'emballage à faire ni de congélation à faire. Et ben, ils ont fait un test cette année avec du squash, puisqu'il y avait une surproduction de squash. Donc du coup, ils ont transformé du squash qu'ils ont pu congeler, donc déjà épluché, en petits carrés, prêt à consommer. Et du coup, ça leur a permis d'optimiser leur main-d'œuvre et leurs ateliers pendant la période où ils n'avaient pas de production de crevettes et de pouvoir ouvrir une nouvelle filière squash congelé prêt à consommer. On va dire que bah, là où il y a du mal, il y a des fois du bien. C'est-à-dire que ça peut nous pousser dans des nouvelles solutions, essayer de faire de la transformation, de mutualiser les moyens de façon à trouver des solutions, soit pour pouvoir desservir le marché local, soit pour pouvoir desservir le marché export.
Les visiteurs du Salon de l'agriculture viennent surtout dans les stands pour déguster ou acheter des produits. Mais il y a aussi de véritables spectacles, comme celui proposé samedi à plusieurs centaines de spectateurs par le 15 du Pacifique, une équipe de rugby composée de militaires issus des trois territoires. Leur but est de perpétuer le souvenir du bataillon du Pacifique, le célèbre bataillon des guitaristes. Les précisions du responsable de cette équipe, pas les autres, le major Akatoto Masei.
Le 15 du Pacifique est constitué des militaires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et de Wallis et Futuna. Et nous avons effectivement comme mission de faire du rugby, c'est notre but premier, et en même temps perpétuer la tradition, notamment culturelle, et ensuite assurer le devoir de mémoire, parce que nous pensons à nos anciens qui se sont engagés en 39-45 et même lors du premier conflit mondial. Nous n'avons aucune ratio en fonction des origines, que ce soit Calédonie, Polynésie ou Wallis et Futuna. Nous, simplement, si nous avons des militaires qui sont disponibles, ils sont partants avec nous. La seule particularité, c'est qu'en fonction de ce que nous allons faire, évidemment que pour un match de rugby, nous allons essayer de prendre les meilleurs joueurs de rugby. Et pour le spectacle que nous venons de voir maintenant, si vous avez des bons danseurs, on va essayer de les prendre. Ensuite, tout le monde sait chanter et le devoir de mémoire, ça marche, ça roule tout seul.
Des propos recueillis par notre correspondant à Paris, Xavier Robert. Et notez que le Salon de l'agriculture refermera ses portes le 2 mars prochain. L'actualité dans le Pacifique et en Australie, les recherches ont repris ce matin pour retrouver un pêcheur professionnel qui aurait été attaqué par un grand requin blanc hier après-midi. C'est la correspondance de Jean-Pierre Zajac.
Le drame s'est produit à environ 55 km à l'est de Newcastle, soit près de 200 km au nord de Sydney. Patron du bateau Dark Horse, Paul Barning participait à une compétition de pêche au gros lorsqu'il est tombé à la mer après s'être pris les pieds dans des lignes. Selon des témoins, il aurait alors été attaqué par un énorme requin blanc qui l'aurait entraîné sous l'eau. La compétition a immédiatement été annulée et tous les bateaux se sont alors lancés à la recherche du malheureux. Une fois l'alerte donnée, ils ont été rejoints par deux hélicoptères et des embarcations de la police maritime. Suspendus tard hier soir, les recherches ont repris ce matin. À Sydney, Jean-Pierre Zajac, RRB.
Et terminons ce journal avec du sport. Nous avons parlé squash ce midi dans le MAC des sports. L'Open international de squash des 40 ans de la Salpicou débute ce soir, Léo Fichou.
Et oui, il se déroulera jusqu'à samedi. C'est à Sainte-Marie. Trois membres de l'équipe de France ainsi que la numéro 1 malaisienne sont engagés dans la compétition. Ces joueuses et joueurs du circuit professionnel feront face aux participants calédoniens. Nous en avons parlé ce midi avec Baptiste Mazzotti, le numéro 2 français, et Nora Villard, 3e meilleure française, ainsi que Laurent Vendée, l'organisateur de cet Open international.
Les 40 ans de la Salpicou, on voulait la fêter dignement. Donc la salle à 40 ans, elle a été construite par les bénévoles de l'Olympique à l'époque. Elle a bénéficié d'une extension pour les Jeux du Pacifique en 2011 et elle a porté le squash calédonien pendant des décennies et des décennies. Donc la Salpicou, elle fait partie du patrimoine sportif de Calédonie. On a une communauté squasheur, squasheuse très, très dynamique, elle est très solidaire, donc les squasheurs seront là, le public sera là, on l'espère. Et puis c'est un gros tournoi, hein, 70 participants, il va y avoir environ 200 matchs dans la semaine. On va pas s'ennuyer dans la joie, dans le respect de l'adversaire et dans la convivialité, ce qu'on a toujours fait au squash. L'ambition qu'on a, c'est d'installer Nouméa comme un spot de préparation et d'acclimatation des meilleurs joueurs, notamment français, et éventuellement de basculer dans quelques années sur un tournoi du circuit PSA.
Baptiste Mazzotti.
Le tournoi de Nouvelle-Calédonie, c'est aussi avant tout une aventure humaine où on partage des moments avec les gens de Nouvelle-Calédonie, les fans de squash, etc. C'est complètement différent en termes de pression, en termes de pression de résultats par rapport aux tournois internationaux professionnels du circuit PSA. Il faut donner la bonne image de notre sport et voilà, on est des compétiteurs, donc forcément, si on peut gagner, on va le faire, on va tout faire pour le faire en tout cas, mais ça va, comme l'a dit Laurent, dans du respect, dans la bonne humeur, quoi.
Et Nora Villard, troisième meilleure française.
C'est vrai que là, ça a tombé vraiment bien, le fait qu'on ait les tournois ensuite en Nouvelle-Zélande et en Australie. Du coup, ça permet de venir un petit peu plus tôt, parce que le décalage horaire, bon, il y a quand même entre 10 et 12 heures en fonction de Nouvelle-Calédonie, Australie, Nouvelle-Zélande. Donc c'est vrai que d'être là une bonne semaine avant, bah, déjà, ça nous permet de nous acclimater, d'avoir des bons matchs d'entraînement. Et puis voilà, comme le disait Baptiste, c'est aussi une aventure humaine d'être avec des gens qu'on apprécie, et puis pouvoir rendre ce petit hommage à Enzo et pouvoir venir lui dire au revoir sur son île, c'était important aussi.
Et notez qu'un hommage à Enzo Corigliano, ancien joueur calédonien de haut niveau, porte-drapeau également de la Nouvelle-Calédonie aux Jeux du Pacifique de 2019, a été rendu ce matin. La cérémonie d'ouverture du tournoi se déroule ce soir. Tous les matchs se disputeront depuis 18h, donc ils ont démarré il y a une dizaine de minutes. Tous les soirs de la semaine, c'est à partir de 18h. Les finales se disputeront samedi après-midi.
Merci Léo Fichou. On passe tout de suite à la météo.
La météo avec la 7. 6 magasins sur l'ensemble du territoire pour vous accompagner dans tous vos projets. La 7, construire, rénover, aménager.
Et la météo, c'est avec vous Nicolas.
Oui, alors cette nuit, le ciel se dégagera progressivement sur le nord-ouest où quelques averses résiduelles seront encore possibles en soirée. Sur l'extrême sud, les Loyautés et un grand quart sud-est de la Grande Terre, des nuages avec quelques ondées remonteront dans l'Alizé. Sur l'ouest, le vent d'est sud-est mollira progressivement entre 10 et 15 nœuds. Ailleurs, il se maintiendra autour de 20 nœuds d'est sud-est à sud-est avec des rafales à 30 nœuds. Il se renforcera même entre 20 et 25 nœuds avec des rafales à 30-35 nœuds aux Loyautés. Les températures minimales seront comprises entre 20 et 24 degrés. Demain matin, ciel nuageux sur le nord-est avec quelques ondées. Ailleurs, le ciel sera bien présent, notamment sur l'ouest. L'alizé de sud-est soufflera autour de 20 nœuds avec des rafales à 30 nœuds. Localement, un peu moins sur le nord-ouest et la pointe nord avec plutôt 15 à 20 nœuds, Léana.
Et merci beaucoup, Nicolas, pour la météo et la technique. C'est la fin de cette édition.